Comment voir le monde et au-delà, voir tout le monde et le cosmos en l'imaginant, en le représentant, en le miniaturisant, en produisant des artefacts. Les cartes et les globes l'ont depuis longtemps permis, mais ce ne sont pas les seuls dispositifs. D'autres fabuleuses machines ont été inventées à cet effet. Des architectures, des scènes, des modèles qui toutes offrent l'occasion d'habiter la Terre. Et c'est l'histoire de ces machines qu'en chercheuse et metteuse en scène, Frédéric Aïtouati a voulu écrire au moment même où nous sommes sommés d'en inventer de nouvelles pour mieux appréhender la situation désormais critique que nous connaissons. Elle est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. Représenter le monde et recommencer le monde, c'est ce qu'on fera en seconde partie d'émission avec le chorégraphe Jérôme Bell. Recommencer le monde, c'est le titre d'un programme qu'il présente au Centre National de la Danse. Jérôme Bell qui est aussi un lecteur attentif de toute cette littérature dite du vivant, mais qui dépasse de loin en fait le vivant. Il nous rejoint en seconde partie. Bonjour Frédéric Aïtouati.
Bonjour.
Vous êtes historienne des sciences, chercheuse au CNRS et également metteuse en scène, et vous publiez aux éditions La Découverte deux livres coup sur coup, l'un qu'on connaissait et pour lequel vous étiez venu il y a assez longtemps, presque 2011, dans cette émission pour en parler, Conte de la Lune, un essai sur la manière dont des savants utilisaient la fiction pour se promener dans l'espace avant qu'on dispose de fusées et de moyens pour y aller. Et puis c'est en quelque sorte la suite que vous publiez cette fois, toujours là cette fois à La Découverte, Théâtre du Monde, théâtre au pluriel, fabrique de la nature en Occident. C'est un livre qui s'intéresse à la manière qu'ont eu des savants au XVIe, au XVIIe siècle d'inventer des dispositifs, des machines pour représenter le monde, le faire tenir dans sa main en quelque sorte. L'enjeu étant de donner à voir tout d'un coup. Ça, c'est vraiment le moteur au fond de tous ces inventeurs.
Oui, c'est la question de saisir la totalité qui est peut-être le point de départ de ces questionnements. Ce livre est venu, je crois, d'une double fascination. D'une part pour les miniatures, vous l'avez dit, pour les choses qu'on arrive à tenir dans la main. Et cette tension qu'il y a entre la miniature et ce qui nous dépasse. Donc c'est un livre qui est tendu, en quelque sorte, entre l'incommensurable de la planète, de la Terre, et tous ces objets que nous fabriquons à taille d'homme, à échelle humaine, nos salles de spectacle, nos machines, nos modèles. Donc c'est vraiment une réflexion sur à la fois l'incapacité et la tentative toujours continuée, toujours reprise, pour refaire le monde.
Alors, je le disais, les cartes, les globes, ce sont des objets assez connus, au fond, qui nous permettent de représenter le monde. Ceux qui vous intéressent le sont moins, beaucoup ont été oubliés et ils n'en ont pas moins joué un rôle aussi essentiel à l'époque, et surtout en entérinant une coupure entre nous et la nature en particulier. C'est cette coupure qui pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui, et donc il est très important d'aller de remonter le temps jusqu'au début de ces dispositifs pour au fond interroger cette façon qu'on a eue de prendre acte d'une coupure qui est très artificielle, puisqu'il s'agit toujours d'artifice.
Oui, moi ce qui m'intéressait, c'était de prendre au sérieux cette phrase qu'on entend dans cette littérature du vivant dont vous parliez, mais qu'on peut faire remonter en fait à la philosophie de Michel Serres, qui est l'un des premiers à avoir dit « la nature n'est plus un décor ». Et cette phrase m'a obsédée pendant longtemps, parce qu'en fait, on peut la suivre dans les textes d'Isabelle Stengers, dans ceux de Bruno Latour, dans les livres d'Emmanuel Ecoccia, mais aussi chez Baptiste Morisot ou Nastasia Martin. Donc c'est comme si les philosophes se repassaient la balle de cette phrase un peu mystérieuse.
Philippe Descola.
Ou chez Philippe Descola, évidemment. La nature n'est plus un décor. Donc il parle de décor dans quel sens? Moi j'ai voulu littéraliser un petit peu cette phrase en me disant... Le décor, moi je sais un petit peu ce que c'est, je fais du théâtre, je me passionne pour l'histoire de la scénographie, peut-être que je pourrais creuser un petit peu cette phrase. Si la nature n'est plus un décor, ça veut dire qu'elle l'a été à un moment, et ça veut dire que cette histoire de la mise en décor de la nature, on peut peut-être essayer de la faire en s'attachant pas simplement à l'histoire de la philosophie, pas simplement à l'histoire des idées, mais à l'histoire très concrète, très matérielle, des scènes des dispositifs, des architectures qui ont créé ce décor. Donc effectivement, il y a quelque chose d'une matérialité de cette coupure qui m'intéresse beaucoup, d'où les détours que je fais par l'histoire de l'architecture, l'histoire du théâtre. Voilà, donc c'est un livre sur cette coupure, vous l'avez dit, qui est très étrange finalement quand on y pense. Tout le monde ne cesse de dire il faut se reconnecter à la nature, donc on entend bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé de la coupure, mais on ne sait pas trop comment la nommer, cette coupure. Et moi, je l'ai cherchée un petit peu partout. Je l'ai cherchée sur les scènes, mais je l'ai cherchée aussi dans les histoires de Bacon, je l'ai cherchée dans les différentes machines, je l'ai cherchée dans des dispositifs qui nous éloignent finalement du spectacle de la nature. Et en fait, quand on la cherche, on la trouve partout, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les différents dispositifs. C'est vraiment ça qui m'intéresse, vraiment en metteur en scène finalement, que je suis partie à la recherche de cette histoire.
C'est pour ça que ce livre prend la forme d'une sorte d'agencement de scène. Il y a un caractère un peu kaléidoscopique dans le livre qui n'est pas chronologique. Ces scènes, elles ont chacune des caractéristiques. Et vous vous intéressez aussi à une époque ou à des époques durant lesquelles la spécialisation des savoirs était sans doute moins forte qu'aujourd'hui, où on pouvait être à la fois philosophe et architecte, ou scientifique et artiste. Donc c'est aussi dans ces croisements qu'on aperçoit la manière dont, très matériellement, cette coupure a été instituée, au fond, par la fabrication de machines. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est probablement le plus pratique, mais celui qui désigne le mieux tous ces objets assez étranges que vous avez placés dans une sorte de cabinet de curiosité aussi qu'est ce livre.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai voulu organiser le livre comme une espèce de petite visite aussi de ces machines que j'appelle des cosmogrammes. Le mot, je l'emprunte à John Thresh, historien des sciences, qui lui-même l'emprunte à l'anthropologie. Et j'aime beaucoup ce mot parce que il sonne cosmogramme, c'est la manière de capter le cosmos, la Terre en l'occurrence, par des objets. Donc ça peut être une cruche. Ça peut être un dessin, ça peut être un mandala, ça peut être cette table autour de laquelle nous sommes qui brusquement représente, voilà. Donc un cosmogramme, c'est un mot très très vaste qui me permet effectivement de passer de manière assez flottante finalement d'un objet à une autre, d'une scène à une autre. Mais au-delà de ce voyage entre les cosmogrammes, il y a quand même ce point commun très fort au XVIIe siècle du paradigme théâtral. C'est-à-dire que on retrouve cette métaphore du théâtre et de la scène à peu près partout. On la retrouve chez Descartes, on la retrouve chez Bacon. Et donc c'était ça mon point de départ, c'est de dire, c'est pas totalement absurde d'aller lire ces textes en metteur en scène. Mais et d'aller chercher leur mise en scène.
Des cosmogrammes ou des représentations du cosmos, qu'elles soient plastiques ou autres, ou mentales ou intellectuelles, on en trouve à tous les moments de l'humanité. Donc qu'est-ce qui se joue au XVIIe siècle, à la fin du XVIe siècle? Qu'est-ce qui se joue de véritablement nouveau de ce point de vue?
Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que en allant d'une scène à l'autre, on se rend compte que c'est un certain art de l'éloignement qui se met en place. C'est-à-dire que le regard, soudain, instaure une distance avec l'objet regardé. Cette histoire-là, elle est très connue.
On n'est plus au milieu du monde.
On n'est plus au milieu du monde. On n'est plus au milieu du monde, on est devant le monde. Voilà. Donc la coupure, elle se fait par le regard, mais aussi par le fait de construire une scène face à des gradins.
Alors ça, on le sait mieux, sans doute, pour l'histoire des arts plastiques, de la peinture, l'invention de la perspective en particulier.
Alors ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, en fait, c'est comme si j'avais essayé de réunir le fil de toutes ces histoires qui, chacune prise isolément, semble raconter son propre déroulé. Mais moi, ce qui m'a frappé, parce que je suis un peu entre ces mondes-là, c'est de me dire, mais voilà, je lis l'histoire de la perspective, on me parle d'un certain rapport au regard. Je suis passionnée d'histoire de scénographie, on me parle d'une certaine mise en place du spectateur loin de l'acteur et de la scène et du décor. Je lis Descartes parce que je suis historienne des sciences, j'assiste à une espèce de mise en scène qui est un spectacle avec un regard éloigné. Je lis Bacon, pareil, en histoire politique, exactement la même chose. Donc en fait, c'est ça que fait la recherche peut-être, c'est de se dire, au d'un moment, je croise les fils des histoires et je me rends compte qu'il y a ce point commun d'une construction de ce que Whitehead, déjà en histoire de la philosophie, avait très bien nommé, qui est la bifurcation de la nature. Donc cette histoire-là, pour moi, elle n'est pas nouvelle. Elle a été racontée aussi par Philippe Descola, elle est racontée par beaucoup de gens. Mais ce qui m'a intéressée, c'est d'aller chercher la matérialité de cette histoire et de me dire, prenons au sérieux cette bascule. Elle n'est pas que théorique, elle n'est pas que conceptuelle. Elle est aussi profondément inscrite dans nos usages, dans nos arts, dans nos manières de regarder, dans nos manières de bouger, dans nos manières de faire du théâtre, dans nos manières de concevoir la prise de parole politique, dans nos manières de représenter le monde. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. Et ce qui est très important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de causalité de l'une à l'autre. C'est-à-dire ne pas aller dire que la philosophie ou la science précéderait l'esthétique ou l'inverse d'ailleurs. C'est ces moments de bascule qui sont fascinants. Et vous avez raison de dire que vous disiez au début que c'était la suite des Contes de la Lune. Ça fait longtemps que je m'intéresse au XVIIe siècle. Je m'intéressais au XVIIe siècle du point de vue des astres et des étoiles. Mais là, j'avais envie de revenir sur Terre et de me dire, voilà, c'est quoi les dispositifs qui permettent de sentir un rapport à la Terre, tout simplement, qui est l'une de nos questions contemporaines, et de comprendre comment ce rapport dont on est les héritiers et contre lequel on lutte et on achoppe, d'où vient ce rapport distant, distancié, coupé, et comment tout ce qui nous entoure, tous nos artefacts, même nos salles de théâtre, sont profondément constitués par cette coupure.
Ça veut dire s'intéresser au théâtre comme mode de connaissance, c'est-à-dire qu'il y a une dimension profondément heuristique dans ces dispositifs. Il s'agit bien d'appréhender au sens de comprendre ce monde en le mettant à distance d'une certaine manière. Et c'est cette dimension heuristique qui vous intéresse aussi. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas l'antériorité d'une pensée, de la philosophie. L'expérience mentale, elle est aussi une expérience esthétique, elle est en même temps une expérience politique. Ça peut marcher dans tous les sens, en fait.
Absolument, et c'est même plus qu'un mode de connaissance. Effectivement, moi, je suis fascinée par ce que le théâtre dit du monde. Mais finalement, c'est quelle est la métaphysique du théâtre, peut-être, qui m'intéresse. Ou plutôt, c'est le théâtre comme maquette non seulement du monde, mais d'un rapport au monde. Donc voilà, qu'est-ce que nos arts, nos manières de faire, nos manières de composer des représentations du monde nous disent d'une cosmologie, c'est-à-dire d'une articulation des objets du monde autour de nous. Voilà. Et c'est vrai que moi, ce qui me fascine avec ces objets, c'est qu'ils sont très simples. Si on essaye de décrire la cosmologie en général des modernes ou du contemporain, c'est extrêmement difficile. Et là, on a des petits objets extrêmement minutieux dont on a les plans, dont on a l'histoire, dont on a les matériaux. Et il y a quelque chose de très simple, finalement, dans ces objets qui nous permettent que ces cosmologies nous sautent aux yeux, en quelque sorte.
Il y a souvent quelque chose de commun à ces objets, c'est qu'ils procèdent par analogie. Il s'agit de reproduire par analogie le monde, de le faire sous une forme de maquette, par exemple. Et vu d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez familier parce que je trouve qu'on procède un peu de la même manière, par analogie, dans l'univers qu'on appelle numérique aujourd'hui et qui est insaisissable, qui est à peu près aussi insaisissable que devait l'être le système solaire pour des gens qui vivaient au XVIIe siècle. Et donc, on a besoin de penser par analogie, on construit des sites web, au fond, un petit peu comme les théâtres à l'époque.
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, un de mes cosmogrammes préférés, c'est celui par lequel j'ouvre le livre. C'est le théâtre de la mémoire de Camillo, qui est une drôle de machine, qui est un objet qui, je crois, pour les geeks historiens d'Internet, est une référence extrêmement importante. En deux mots, le théâtre de Camillo, c'était à la fois une idée, une espèce de concept, mais apparemment, il l'a également construit en bois uniquement pour François Ier. Et dans ce théâtre, il avait imaginé de réunir l'intégralité des connaissances et des choses du monde. Délirant.
C'est à la fois les choses et la connaissance des choses.
Et aussi toute une couche mythologique, hermétique. Voilà. Donc, sans rentrer dans la complexité de ce système, parce que c'est un système, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un système combinatoire. Un petit peu comme nos systèmes aujourd'hui. Et c'est une manière, dans un endroit, et là je montre mon petit téléphone, d'avoir accès au monde entier par des combinatoires. Il y a quelque chose qui nous est extrêmement familier, effectivement, dans ce dessin, dans ce projet.
Alors, voyage historique, cette visite guidée au fond dans ce cabinet de curiosité des machines, c'est pas simplement pour le plaisir de faire de l'histoire des sciences, même si c'est un plaisir en soi déjà considérable, c'est aussi parce que le faire dans le moment dans lequel nous nous trouvons est important pour vous, non pas pour, dites-vous, rendre responsable ces objets ou ces opérations de pensée de la catastrophe qui est arrivée, de l'Anthropocène qui démarre sans doute à peu près à ce moment-là, ou en tous les cas s'intensifie, mais bien pour imaginer ce qu'on peut faire aujourd'hui de tels dispositifs, la façon dont on pourrait en inventer de nouveaux qui prennent en compte cette situation dans laquelle on se trouve, ou des dispositifs qui auraient pris acte de la coupure telle que matérialisée et qui la remettrait en question pour inventer des dispositifs dans lesquels, par exemple, on serait à nouveau au milieu du monde.
Oui, exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans tout ce processus sur lequel on est nombreux à réfléchir, de comment passer outre cette séparation dont j'essaye de faire un morceau de l'histoire. On parle beaucoup de reconnexion directe. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une espèce d'éloge de la médiation, de dire c'est compliqué d'avoir un accès direct au monde dans sa diversité. En tout cas, on fait partie de ces êtres, comme beaucoup d'autres animaux d'ailleurs que les primates, on fait partie de ces êtres qui construisent des artefacts qui leur sont nécessaires pour se relier au monde. Et on peut décider de faire sans, mais moi je propose une voie qui est un petit peu différente, c'est de faire avec et de se dire, il faut continuer à créer des dispositifs, c'est pas forcément des machines au sens technologique du terme, hein. Ça peut être des manières de s'assembler, ça peut être des danses, ça peut être des manières de parler, ça peut être des types de dessins, ça peut être... Voilà, en tout cas, c'est un appel aux arts de faire, aux arts, au sens d'artefacts, aux arts de produire des représentations du monde. Et ça, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup. Vous dites très justement, c'est une visite dans un cabinet de curiosité, c'est aussi un éloge de la variété et de la profusion des images et des représentations du monde qu'on a pu avoir. Ce qui est terrifiant, c'est d'en avoir plus qu'une. Ce qui est terrifiant, c'est de vouloir l'hégémonie d'un modèle. Or, ce qui me fascine, moi, en histoire des sciences, et c'est pour ça que je continue à en faire depuis longtemps maintenant, c'est cette profusion de formes, de modèles, que l'histoire recèle. Donc, réouvrir notre capacité à construire des modèles du monde pour réouvrir notre capacité à l'habiter autrement.
Parce que vous avez pris acte de la crise de la représentation dans laquelle on est, ce qui veut dire à la fois une difficulté à se représenter à le monde, mais aussi crise de la représentation dans un sens politique, pas seulement esthétique ou scientifique.
Bien sûr, et c'est là qu'on voit bien que les différentes scènes dont je parle ne sont pas tellement dissociables. Quand on fait un geste scientifique ou esthétique, c'est toute une cosmologie qui va derrière. Une manière de prendre la parole, un choix de mots, une manière de se présenter, un rapport aux autres. Tout ça charrie évidemment des sujets politiques. Et ce qui m'intéresse, c'est de relier ces scènes entre elles et de tenter par l'histoire, parce que l'histoire est un terrain merveilleux, de montrer à quel point elles sont comme les facettes d'une même bascule. Et donc, aujourd'hui, on peut se poser la question de, voilà, où est-ce qu'on en est de nos modèles politiques? Où est-ce qu'on en est de nos modèles et de nos représentations de l'espace? Où est-ce qu'on en est de notre représentation de l'esthétique? Voilà. Et essayer d'articuler ces différentes scènes entre elles, c'est une tâche immense. C'est une chose que j'ai essayé de faire il y a quelques années avec Terraforma, par exemple, mais sur un tout petit bout de ces multiples facettes, en se disant, voilà, nos cartes, par exemple, ne représentent qu'une toute petite facette, la surface plane de l'espace terrestre. Est-ce qu'on pourrait inventer des nouvelles cartes? Donc finalement, tout mon travail n'est qu'un effort de déployer, de réouvrir cette tentative de modélisation qui, je crois, est profondément une de nos, un de nos attributs humains.
Vous disiez... Vous êtes particulièrement attentive à la matérialité, aux objets. Là, pour Terraforma, vous parliez des cartes que vous avez été amené à inventer avec deux architectes. Mais il y a aussi des choses qui se passent de matérialité. Il y a des expériences qui sont des expériences purement mentales et qui permettent aussi d'accéder à ce type de représentation ou de savoir. Et ça existe déjà au XVIIe siècle. Et les philosophes travaillent aussi à produire des expériences mentales.
Oui, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, les expériences de pensée, la puissance de la fiction qui est une de mes obsessions, puisque la fiction, c'est aussi une forme de fabrication. Elle n'est pas matérielle, mais elle est extrêmement tangible, elle est extrêmement opérante. Elle est extrêmement, je dirais, performative. Et c'est une des choses qui m'intéresse, c'est-à-dire que ce passage entre l'imagination et sa matérialisation et retour, c'est assez fascinant de suivre ça historiquement, de se dire, voilà, Descartes a produit un modèle, par exemple, très étrange, très singulier, d'une physique qu'il décrit dans les météores, et... Petit à petit, on a fait en sorte que la réalité colle à ce modèle très bizarre. Voilà. Donc, il y a une effectivité du modèle. Et le modèle m'intéresse comme objet d'analyse parce qu'il est à la fois une représentation du monde et un programme. Il est à la fois descriptif et programmatique. Et donc, il est extrêmement puissant, possiblement dangereux, possiblement aidant. Enfin voilà, après, il n'y a pas de morale du modèle. Ça dépend ce qu'on en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi dans cette grande condamnation contemporaine du XVIIe siècle et de Descartes, de dire Descartes n'a pas fait son modèle pour nous amener à la coupure des modernes. Il l'a fait parce qu'il réagissait à d'autres modèles auparavant. Et puis, c'est ensuite la suite qui s'est saisie de cette cosmologie-là, de possession et de pour en faire autre chose. Donc c'est assez fascinant de prendre les modèles comme des objets d'étude en se disant on peut continuer à en produire, il faut continuer à en produire et à se poser la question par ces petits objets parce que c'est ceux qui sont à notre mesure.
Descartes, Bacon, auquel vous consacrez aussi un long développement, ce théâtre de Camillo dont vous avez parlé, mais il y a au cœur de votre livre un dispositif ou un théâtre avec lequel on est sans doute davantage familier, qui est au cœur de cette période, qui est le théâtre élisabétain, et en particulier le théâtre de Shakespeare. Quand on dit le théâtre de Shakespeare, c'est à la fois l'œuvre théâtrale de Shakespeare, mais aussi le théâtre matériel, le théâtre du Globe, dont on ne sait pas grand-chose au fond, mais on en connaît d'autres, des théâtres de la même époque.
Oui, et déjà il faut partir de ce mot magnifique, théâtre du Globe, qui est bien sûr, que j'ai repris comme un écho avec ce titre Théâtre du Monde. La grande historienne sur laquelle je me suis beaucoup appuyée pour repartir de ça, c'est bien sûr Frances Yates et son magnifique livre, qui est là aussi cité dans mon titre, qui s'appelle Théâtre du Monde au singulier cette fois. Et dans la magnifique étude de Yates, elle fait le lien. C'est la première, en fait, à faire aussi directement le lien entre une cosmologie et un type de plan de théâtre. Ce qui est fascinant chez Yates, c'est de voir à quel point elle retrace les liens très profonds entre histoire de l'architecture, Vitruve, histoire de l'hermétisme, et brusquement, une forme architecturale, un bâtiment qui s'incarne. Toujours ce passage entre ce qu'on a dans la tête et notre manière de le matérialiser. Ce qui est très beau dans ce théâtre-là, c'est qu'il permet de convoquer les êtres de la nature d'une manière qui est complètement différente de celle qu'on invente au cours du XVIIe siècle, qui est une manière de convoquer la nature par des décors, par des représentations dessinées, par du carton découpé, par des nuages peints en bois, etc. Et on voit bien que c'est la puissance de la parole et de la parole shakespearienne dont il est question ici. Mais c'est aussi un rapport à la proximité des corps et l'idée que le théâtre peut être une vraie petite maquette du monde. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour ça, je crois, que je fais à la fois du théâtre et de l'histoire des sciences, c'est que le théâtre me paraît être encore et toujours un endroit de plasticité absolue. Il y a eu Shakespeare, il y a eu le théâtre grec, il y a eu le théâtre baroque, il y a eu toute l'histoire des avant-gardes du XXe siècle. Mais aujourd'hui, finalement, le théâtre continue à être un endroit de maquette, un endroit de modélisation du monde extrêmement puissant, plastique, parce que très simple, parce qu'il nous permet de réunir tous les êtres de notre monde, comme un abrégé.
À l'origine de ce livre, Frédéric Aitouati, il y a un grand historien des sciences anglais, Simon Schaeffer, qui vous montre une gravure du roi Louis XIV en visite au Jardin des Plantes à Paris.
Oui, c'est une magnifique image qu'on peut trouver d'ailleurs à l'Observatoire de Paris si on va s'y promener un dimanche ensoleillé. C'est une très belle gravure où on voit Louis XIV entouré des savants de son temps, de Perrault. Et puis, il est entouré des machines, il est entouré des objets. Au lointain, il y a justement l'observatoire en train d'être construit. Enfin, évidemment, comme toujours, Simon Schaeffer pose des cols, des espèces de défis, de devinettes. Et la devinette qu'il y avait à l'intérieur de cette image, c'est qu'en fait, cette image est une fausse perspective.
Oui, on ne voit pas l'observatoire depuis le muséum.
En fait, on ne voit pas du tout du Jardin des Plantes. Voilà. Et c'est où tout est faux, au sens, tout est mis en scène. C'est une mise en scène parfaite d'un événement qui n'a pas eu lieu. Louis XIV n'est pas allé là-bas. C'est un faux événement mis en scène pour représenter le travail de l'Académie des sciences de l'époque. Ce qui m'intéresse dans cette gravure, c'est à quel point le pouvoir a repris tous ces cosmogrammes à son compte, à quel point le pouvoir a été capable de voir très vite l'intérêt de ces représentations de la nature distante, à quel point le pouvoir a su s'entourer des savants pour son propre compte. Donc il y a une espèce de concentration dans cette gravure, et il y a aussi le cabinet de curiosité, il y a aussi le théâtre d'anatomie. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous ces différents dispositifs de savoir deviennent des dispositifs de pouvoir en quelques décennies.
On retrouve Louis XIV tout de suite dans la seconde partie de l'émission avec Jérôme Bell qui nous rejoint pour continuer à parler du livre de Frédéric Aitouati, Théâtre du Monde. C'est après un extrait du somptueux nouvel album d'Adrian Lenker, Ruined.
La suite dans les idées, Sylvain Brumeau.
Until I'm brave enough to call you, I just fall through every time. I wish I'd waved when I saw you, I just watched you passing by. So much coming through every hour too, can't get enough of you. You come around, I'm ruined. You come around, I'm ruined. You gave me no answer, nor asked me to lie. You just gave me an amethyst from your jeweled vest as you cried. So much coming through every hour too, can't get enough of you. Fern bent to the window, and we drew to alignment as the water soaked the pillow. So much coming through every hour. So much coming through every hour too. Can't get enough of you. You come around, I'm ruined. You come around, I'm ruined. So much coming through every hour too. Can't get enough of you. You come around, I'm ruined. You come around, I'm ruined. So much coming through every hour too. You come around, I'm ruined.
On parle du monde aujourd'hui à la suite dans les idées des théâtres du monde et de recommencer le monde avec vous, Jérôme Bell. C'est le titre de ce programme que vous présentez au Centre National de la Danse à Pantin qui propose un certain nombre de spectacles vivants mais aussi de rencontres, de discussions. Vous êtes, je le disais, un grand lecteur de toute cette littérature qui nous passionne et de cette bibliothèque dans laquelle vient se ranger ce nouveau livre de Frédéric Aïtouati. Et je le disais, on retrouve Louis XIV parce que Louis XIV, il est dans le spectacle Danse non humaine que vous avez créé avec Estelle Zong-Mingual au Musée du Louvre à Paris, que vous reprenez désormais dans ce programme et qui s'intéresse à la question de la représentation de la nature dans l'histoire de la danse.
Oui. Un peu comme Frédéric Aïtouati, moi malheureusement je suis pas historien de la danse, c'est pour ça que j'en ai pas trouvé, enfin d'historien de la danse qui s'intéressait à la représentation du vivant dans la danse. Et moi depuis quelques années j'essaie de produire un spectacle, c'est ça mon travail, là-dessus, et j'y arrive pas. Et donc je me suis dit, tiens, je vais regarder l'histoire qu'ont fait mes prédécesseurs, mes prédécesseuses. Et à ce moment-là, j'ai lu le livre de Saison Mingual, Apprendre à voir, et je me suis dit, je lui ai proposé de venir regarder les danses que j'avais identifiées, et dont la première est celle de Louis XIV, en 1653, le ballet de la nuit où il joue le soleil. Et en fait, on commence en fait avec la Louis XIV, le 17e dont vous parliez, où la danse savante va naître, puisque Louis XIV crée l'Académie royale de danse. Et jusque avant, ce sont les nobles qui dansent, qui sont des amateurs donc. Tout d'un coup, ça va devenir des danseurs professionnels. Et les choses, à mon avis, mais c'est en lisant le livre de Frédéric que j'ai pensé, mais il faut que je réfléchisse plus, que là, il y a un problème avec la professionnalisation. Et peut-être qu'il y a quelque chose de commun avec cette séparation et ce pouvoir que tu évoques dans le livre. Et donc, j'ai eu l'idée, parce que j'étais invité au Louvre, je me suis dit, ah bah, tiens, ça serait bien d'avoir Louis XIV, et comme il dansait dans un grand escalier, on l'a mis dans un grand escalier, et maintenant, on a quitté le Louvre, et on retrouve les scènes, le théâtre, et voilà, le spectacle est une sorte d'essai, sur qu'est-ce que la danse a pu, produire d'intéressant, et surtout on regarde cette danse évidemment du point de vue d'aujourd'hui, de notre problème qui est notre crise écologique.
Mais vous diriez que ce sont des cosmogrammes, pour reprendre le terme de Frédéric, ces danses, ces manières de représenter le soleil ou le vent ou...
Absolument, je pense que oui. Je n'avais pas pensé, mais oui, tout à fait. Puis c'est vraiment ça qu'on va, grâce à Estelle, à disséquer et voir là où certaines sont pour nous utiles et d'autres qui sont, par exemple, admirées par l'histoire de la danse et absolument vraiment très belles, ne sont finalement font fausse route par rapport à aujourd'hui et par rapport à ce que moi j'essaie de trouver comme un nouveau cosmogramme d'aujourd'hui, quoi, trouver des danses d'aujourd'hui en rapport avec notre moment historique.
Mais vous avez un souci commun tous les deux, enfin je pense qu'on l'a tous, mais vous faites le pari de refaire un bout d'histoire pour essayer de résoudre la situation, le problème face auquel nous nous trouvons, Frédéric Aitouati.
Bon, on peut difficilement s'en passer de ce bout d'histoire, comme vous dites, puisque on sent bien qu'on est dans une sorte de bascule, et c'est ça qu'on cherche tous collectivement. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés avec Jérôme autour de nos spectacles. On se connaissait pas avant, mais je crois qu'on a le même souci. Et c'est vrai que moi, en lisant aussi les amis géochimistes, Jérôme Gaillardet notamment, en travaillant avec eux, les 20 ans avec Bruno, j'en suis arrivée à me dire, mais la Terre est une danse, donc il faut faire des maquettes danser. Et c'est vrai que moi, je suis allée vers la danse, comme vous êtes allée peut-être vers ces textes, enfin, comme si nos chemins se rencontraient là, alors qu'on venait pas du tout des mêmes endroits. Moi, j'ai l'impression que la danse est un des cosmogrammes pertinents aujourd'hui pour saisir, pour se représenter déjà à nous-mêmes, avant même de parler d'un public, mais déjà à nous-mêmes, cette cosmologie enchevêtrée, mouvante, dont nous parlent Anat Singh, Baptiste, etc.
Baptiste Morisot.
Moi, je dirais le contraire. C'est-à-dire qu'en danse, j'y arrive pas du tout, et j'ai besoin des textes pour essayer de comprendre qu'est-ce que je peux faire en danse. Hein. Donc, effectivement, les mêmes personnes que vous venez de citer. Et là, effectivement, dans ce projet CND, où je suis Centre National de la Danse, où je suis artiste associé, j'ai voulu... Normalement, je devrais présenter de la danse, et puis, évidemment, je pensais que c'était pas suffisant, et surtout, tous les artistes que chorégraphes et danseurs que j'ai trouvé intéressants, dont une ancienne élève de SPIP.
Hein, donc SPIP, c'est l'école des arts politiques que dirige Frédéric Aitouati.
Exactement. Et qui sont au courant de ces choses-là, de Isabelle Stengers, tout c'est. Donc j'ai voulu ne pas inviter que des chorégraphes, et le Centre National de Danse a accepté, et donc il y a Baptiste Morisot qui vient, qui a parlé il a donné une conférence qui s'appelle Changer de culture, donc ça tombe bien que ça soit dans un lieu de danse, ça me fait plaisir. Il va y avoir aussi des activistes, Jay Jordan et Isabelle Frémaux, qui eux pensent qu'il faut plus faire de spectacles, je le dis vite, mais agir différemment. Donc en fait...
Vous avez changé votre manière de les produire, les spectacles, ou de les tourner en tout cas.
Alors moi, quand il y a eu la... J'ai incorporé le problème de la crise écologique, j'ai eu une réaction qu'on appelle pragmatique. C'est-à-dire, j'ai pas fait d'œuvre, mais j'ai décidé de plus prendre l'avion, puisque moi, je faisais des tournées en avion
mondial,
des tournées internationales. Et donc, c'était ma réaction première, et ça fait 5 ans maintenant. Et je savais aussi que ça allait prendre du temps avant de... que j'arrive à formaliser artistiquement cette chose-là. Je n'y arrive pas encore, donc je me dis que voyons l'histoire, voyons les autres, quoi, voyons ce qui s'est passé pour comprendre notre situation aujourd'hui. Donc c'est vraiment très très proche de ce livre Théâtre du monde qui dresse la généalogie, en l'occurrence là, des scénographies.
Cette histoire de la danse, elle est d'autant plus précieuse que elle est fragile. Enfin, c'est évidemment, la danse, c'est éphémère. Il y a parfois de nos jours des captations vidéo, mais ça remplace jamais les spectacles. Et à la différence du cinéma ou de la littérature, on a du mal à avoir accès
à la musique
ou la musique.
Ah oui.
Écoutez, on a du mal à avoir accès au spectacle.
Ah, mais c'est une catastrophe. Notre histoire n'existe pas.
Alors, il y a des notations qui sont très belles, qui sont les notations feuillées, par exemple, de l'époque baroque.
De Louis XIV.
De Louis XIV, ouais, ouais. Que moi j'adore, parce qu'elles ressemblent vraiment à des cartes, à des cosmogrammes. Et en fait, on pourrait faire l'histoire des cosmogrammes de danse aussi par cette histoire
des représentations graphiques de la danse.
Graphiques, voilà, qui sont extrêmement belles. Et on voit bien d'ailleurs cette symétrie, une vision du cosmos très harmonieuse, très hiérarchique. Mais moi, ce qui me frappe, pour rebondir sur ce que disait Jérôme, c'est que pendant que tout cela se passe au CND, on fait à peu près la même chose avec l'autre partie de la famille à Chaillot, avec Nastasia Martin... Et Sébastien Dutreuil, Emmanuel Ecoccia, et il se trouve que les lieux de danse, le Centre National de la Danse pour Jérôme, ou
le
Chaillot,
Théâtre National de la Danse à Chaillot,
dans mon cas, deviennent des lieux où on réfléchit. C'est-à-dire qu'on invite des anthropologues, des activistes, il y aura Camille Etienne avec nous, des étudiants, des architectes, des danseurs, pour réfléchir collectivement à toutes ces scènes ensemble. Donc moi, je suis ravie, ça. C'est ce que j'essaye de raconter au XVIIe siècle. Mais en fait, ça se passe maintenant. C'est-à-dire que ces scènes politiques, esthétiques et philosophiques sont réunies pour tenter de construire des nouveaux cosmogrammes, ou en tout cas pour poser la question de ces cosmogrammes-là. Et une des raisons qui font que je suis allée vers la danse, c'est que, d'ailleurs, j'en ai fait cette création qui sera... samedi prochain, le bal de la Terre. Le bal de la Terre, c'est le dernier mot du livre. Et le bal de la Terre, c'est aussi... Bon, c'est le dernier mot, ça ne veut pas du tout dire que je conclue sur ça, c'est-à-dire que j'ouvre. Et ensuite, il a fallu que je passe au spectacle pour poursuivre le trajet du livre.
Frédéric Atuati a l'air de considérer que ce n'est pas un hasard si c'est dans les deux plus grandes institutions de la danse française qu'on se pose ces questions-là. Vous pensez que la danse est dans une situation un peu privilégiée pour réfléchir à ces questions par rapport à d'autres... discipline artistique, Jérôme Bell?
Non, parce que... Enfin, là, c'est vrai que ça tombe un peu bizarrement. Et c'est tant mieux que la danse embrasse ça. Moi, quand même, je retrouve... par exemple, là, j'ai invité à venir travailler dans un studio de danse l'artiste Tiffaine Calmette.
Et plasticienne, donc.
Plasticienne, et qui, elle, a invité à son tour un anthropologue, Théo Mariani. Et on a passé la journée d'hier. Elle a fait venir 5 tonnes de terre dans le studio de danse. Donc là, et donc il y a cette terre qui est dans le qui fout le bordel parce qu'évidemment c'est de la poussière, ça salit tout, et on voit, et là ça, elle, je crois qu'elle, c'est un peu tôt pour dire utiliser le mot cosmogramme maintenant à tout bout de champ, mais tout d'un coup il y a quelque chose de cet ordre qui se passe, c'est-à-dire comment on danse dans la terre, dans 5 tonnes, alors que dessous cette terre il y a ce qui est la chose à laquelle je pense plus, moi, quand je vais dans un studio de danse, qui est un plancher pour pas se faire mal, un peu rebondi pour pas, on saute, on se fait pas mal quand on retombe, et aussi un tapis de danse, puisque la danse moderne, elle danse ses pieds nus, et donc il fallait, et tout d'un coup, et qui nous sépare de la terre, ce plancher. Alors qu'a priori, on dansait dans les temps les plus anciens, en direct, avec les pieds
sur la terre battue.
Voilà, donc là, il s'est passé quelque chose presque de...
Vous voyez l'importance des conditions matérielles.
Mais on parle beaucoup de zéro artificialisation.
Je lisais le livre et j'étais sur ce tas. Et c'est pour ça que j'y ai pensé, ou sinon j'aurais pas pensé, vraiment.
Mais on parle beaucoup de zéro artificialisation nette, mais en fait, il y a artificialisation et artificialisation. On a besoin d'artificialisation pour désartificialiser aussi.
C'est ça, et c'est ce petit paradoxe qui, moi, me plaît beaucoup, c'est-à-dire dire que cette espèce de condamnation de tout artifice, on en voit bien les limites. Et bien sûr qu'on peut aller embrasser les arbres, et ça fait du bien de marcher en forêt. Mais se rappeler qu'on est des êtres d'artefacts, d'art et d'artifice, je crois que c'est important pour ce qui nous arrive collectivement.
Merci Frédéric Aïtouati et merci Jérôme Bell. Théâtre du Monde, c'est le livre de Frédéric Aïtouati. On trouve la référence sur la page de l'émission. Et puis Recommencer le Monde, c'est le programme au Centre National de la Danse. On trouve aussi les informations sur la page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bromeau avec Seam Boutata. À la technique aujourd'hui, Élise Le. À la réalisation, Anne-Laure Chanel.